Écho d'économie.
Bonsoir. Bienvenue à l'écoute de votre magazine. L'inspection générale des finances Ituri certifie la performance de la DGRPI pour le premier trimestre 2024. La régie provinciale a réalisé plus de 4 millions de dollars américains. Elle serait encore meilleure ses recettes si la part reversée aux groupes armés était canalisée vers le trésor public. Un incendie d'origine non encore connue a consumé une partie du marché transfrontalier de Lufu. Les dégâts sont importants, nous a confié l'administrateur de ce marché, mais il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Et l'invité de l'économie ce soir est une jeune entrepreneur de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Audrey Zikazika va nous parler de son unité de production et de transformation de jus naturel. Voilà pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. La Direction générale des recettes de l'Ituri, DGRPI, a réalisé plus de 4 100 000 dollars américains pour le premier trimestre de l'année 2024. Dans son rapport rendu public samedi, l'inspection provinciale des finances soutient que les animateurs et les agents de ces services sont instruits pour lutter contre la fraude, ce qui justifie cette mobilisation qui représente le double pour la même période de l'année passée. Cependant, d'autres recettes échappent encore à la province à cause de la présence des groupes armés qui ont instauré une administration parallèle dans plusieurs entités. Le point avec vous, Jean-Claude Kidilé.
Ce gouvernement des recettes se chiffre exactement à 4 700 000 dollars américains pour la période de janvier à mars 2024. Pour l'inspecteur provincial intérimaire de finances, cette performance est due aux efforts fournis par les animateurs de la DGRPI pour lutter contre le détournement de fonds. David Mokili.
Lorsque la population ou les agents de la DGRPI prennent conscience, ça joue sur la mobilisation des recettes. Ce qui est à la base, nous avons mis des pressions sérieusement sur les agents de la DGRPI. Jusque dans des guichets, c'est question tout simplement de volonté dans les chefs de nos dirigeants de cette régie-là.
Cette autorité avoue cependant que l'insécurité qui sévit dans plusieurs entités occupées par des groupes armés fait perdre à la province des centaines de dollars américains qui sont perçus par des groupes armés. Maître David Mokili.
On se dit que malgré cette situation de l'insécurité, on peut toujours aller au-delà. Et s'il n'y avait vraiment pas les sécurités là, alors j'estime qu'avec cette performance que nous avons analysée, on peut même arriver à 15 millions par trimestre. Cette situation de l'insécurité impacte effectivement sur les recettes, mais quand on a la volonté, on se concentre sur les coins où il n'y a pas trop de situation de l'insécurité, on mobilise les recettes normalement et on les canalise normalement sans les détourner, ça fera quelque chose pour la province.
Des observateurs souhaitent que les conditions salariales des agents de cette régie soient améliorés en vue de leur permettre de maximiser les recettes. Bounia, Jean-Claude Doki, Dile, Radio Capi.
Alors que les sociétés minières du Nord Kivu annoncent leur total engagement à ne plus acheter les minerais en provenance des zones sous occupation des rebelles, notamment dans le territoire de Masisi, l'exploitation, elle, se poursuit normalement. Mais à qui profite ce boycott d'achat? Suivez cette analyse de Justin Ndaïchimiye. Il est député national élu de Masisi et coordonnateur au sein de la Coopérama.
Si aujourd'hui les entités de traitement ont pris la décision de ne plus acheter les minerais en provenance de Masisi, c'est plus qu'il est strictement interdit d'acheter les minerais en provenance des zones occupées par les groupes armés. Alors qu'aujourd'hui, l'exploitation à Masisi continue. Ce qu'il faut exploiter à Masisi, c'est le Rwanda, et les minerais qui sont exploités à Masisi sont acheminés directement vers le Rwanda. Aujourd'hui, ils ont déjà mis un ministre national à Rubaya en charge des mines. Ils sont en train de piller. Donc, aujourd'hui, les minerais de Masisi sont acheminés vers le Rwanda, étiquetés par les services de traçabilité du Rwanda et c'est vendu au marché mondial comme les minerais du Rwanda. Donc, je peux demander à la communauté internationale de s'élever pour prendre des mesures qui peuvent arrêter ce pillage des minerais du Congo par le Rwanda.
Je vous l'ai dit tantôt, un incendie d'origine non encore connue a consumé une partie du marché transfrontalier de l'Oufou dans le Congo central. Les faits se sont passés vers 23 heures dans la nuit de dimanche à lundi. L'administrateur de ce marché, Félix Bokoutchou, qui le confirme, renseigne que les dégâts matériels sont énormes, mais il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Félix Bokoutchou.
L'incendie a bel et bien eu lieu. C'était aux environs de 23 heures hier. C'était un peu difficile pour éteindre ce feu parce que c'était un dépôt et qui était presque au milieu des autres dépôts. Comme tous les dépôts n'ont que le même mire mitoyen qu'ils partagent, ce qui a fait que l'incendie s'est propagé. Il y a un pavillon seulement qui a connu ces dommages. On a perdu au moins une trentaine de dépôts, une vingtaine ou une trentaine de dépôts. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore évalué, mais je vais tout évaluer, je vais vous donner l'exactitude du nombre de dépôts. Mais je pense qu'au moins une trentaine. Une trentaine parce que de l'entrée principale jusqu'à l'entrée chinois, communément appelée, et puis il peut y avoir déjà une trentaine de dépôts. Et tous ces dépôts ont été calcinés, et il n'y a pas eu perte en vie humaine, mais c'est seulement il y a des dégâts matériels, donc les commerçants ont perdu leurs biens aussi. Parce qu'il y a eu un groupe de badauds qui étaient venus soi-disant aider, mais ils ont voulu commencer à fuir avec le marchandise d'autrui, et la police avait fait son travail dans tout professionnalisme alors.
En plus bref et sur le marché de change en ce début de semaine, alors que le taux de change officiel de la Banque centrale du Congo est de 2787,32 francs congolais pour 1 dollar américain, les tableaux sur le marché parallèle ont affiché jusque 2810 francs congolais dans plusieurs coins de Kinshasa. L'euro vaut 3032,06 francs congolais et 4,62 francs congolais pour 1 franc CFA. Et sachez que depuis le 8 août 2023, le taux directeur de la Banque centrale du Congo pour réguler le marché est resté fixé à 25%.
Écho d'économie.
Écho d'économie, place à présent à l'invité de l'économie. L'invité de l'économie est Audrey Zikazika, une jeune femme entrepreneur responsable de la société Ascam Juice. Il s'agit de l'entreprise de production et de transformation des jus naturels basée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Grâce à son activité, qu'elle a commencé avec un capital de moins de 200 dollars, Audrey Zikazika affirme satisfaire maintenant à ses besoins primaires. Elle nous en dit plus dans cet entretien avec Grace Amzati.
Audrey Zikazika, bonjour.
Bonjour, monsieur Grace.
Aujourd'hui, je viens vous découvrir dans votre entreprise, Ascam Juice. D'où est venue l'idée de créer cette entreprise?
Déjà, pour la petite histoire, moi, je suis quelqu'un qui raffole de sucreries. Je prenais beaucoup de boissons gazeuses. Et tellement qu'avec le temps, avec l'âge aussi, je me suis dit, j'aimerais bien arrêter. Mais je voyais pas par quoi pallier les jus que je prenais à autre chose. Et une fois, quand je suis allée hors du pays, dans une ville, et je voyais qu'on ne prenait que du jus naturel. Donc, quand vous venez dans un restaurant, on vous propose des smoothies, de fruits et tout et tout. Alors, l'idée m'avait vraiment tapé au système. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas amener la même idée ici chez nous au pays, et précisément à Lubumbashi, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Alors, je voulais savoir comment ça se faisait et tout et tout. J'ai même demandé d'entrer dans un restaurant pour voir un peu comment ça se passait. Et je l'ai fait, ils ont autorisé. Et j'ai vraiment aimé les concepts. C'était d'abord pour moi-même, parce que pour pallier un peu à ces problèmes de boire beaucoup de jus et avec tout ce qu'il y a comme conséquence, des boissons gazeuses, la façon dont ça s'est fait, les additifs qu'on met. Alors, j'ai vraiment dit que c'était une aubaine. Alors, de là, je suis venue, j'ai acheté des machines, je suis venue avec ici, mais j'avais la peur de commencer. Je me disais, comment faire ça, comment faire accepter l'idée ici à Lubumbashi? Mais je faisais déjà ça à la maison. C'est comme ça que ça a commencé. Et les gens qui venaient trouvaient que c'était une très bonne idée. Mais je ne voyais pas vraiment par où commencer, donc je faisais d'abord ça à la maison.
Et ça fait combien de temps aujourd'hui que votre entreprise existe?
De façon informelle, ça fait 3 ans déjà, parce que j'ai existé seulement dans des expositions. Une fois, j'ai exposé à la FEC et j'ai exposé des smoothies de fruits. Les gens ont vraiment raffolé. Maintenant, les gens demandaient c'est où l'adresse, comment ils pouvaient me trouver. Et depuis l'année passée, septembre année passée, donc ça fait une année, bientôt une année, que formellement la filière jus a commencé. Parce qu'Axam Group, je suis dans beaucoup de choses, dans la restauration, dans les formations, mais les jus, c'est depuis septembre de l'année passée.
Est-ce que c'est rentable quand même cette activité que vous menez depuis 3 ans?
Oh oui, c'est rentable et surtout quand ça s'écoule. Quand ça s'écoule, que ça se vend vraiment, les gens connaissent, ça s'écoule facilement, c'est rentable. Le seul problème qu'on a, qui ne fait que ça soit un peu lourd, c'est les emballages. Vous connaissez, non? Dans notre pays, on a un problème d'emballage et les emballages coûtent cher. Ce qui fait que quand vous voyez même le prix de nos produits, c'est un peu plus haut que les produits qui se vendent dans des grandes surfaces et autre chose.
Et expliquez-nous, quelle est la procédure jusqu'à produire ces jus-là naturels?
La procédure, si je peux dire en gros, nous commençons par l'achat de produits, donc. On a des partenaires qui vendent des fruits. On amène à la maison. On commence par la désinfection des fruits parce que les fruits sont remplis de pesticides. On désinfecte nos fruits. On le lave. On épluche nos fruits. On les découpe et on procède au broyage de fruits. Donc on broie le fruit et on extrait les jus. Après l'extraction de jus, on fait la pasteurisation des jus qu'on a déjà extraits. On en fait l'empaquetage. Donc on met dans des bouteilles, dans des pots. Et après, on stérilise encore les bouteilles après. Et c'est en gros, c'est ça.
Alors, il n'y a pas d'additifs, c'est naturel.
Nos jus sont naturels. On a refusé les additifs chimiques parce qu'on connaît les conséquences de ces additifs. Alors, on a opté pour la pasteurisation qui est un mode de conservation physique.
Et vous avez commencé avec quel capital?
On a commencé avec, comment je vais dire, c'était pas plus de 200 dollars. On a commencé comme ça et on a acheté une petite quantité de fruits et on a commencé avec moins de 200 dollars en tout cas.
Et aujourd'hui, on peut dire que vous vivez de cette activité?
Bien sûr, je vis. Si vous voyez, même là, il y a des cartons de jus que j'apprête à aller livrer dans une grande surface de la place SK. Je livre déjà, donc je vis de ça.
Est-ce que vous n'avez pas des soutiens qui proviennent d'ailleurs ou des financements, par exemple, parce qu'il s'agit des petites et moyennes entreprises?
Oui, bien sûr, on a toujours besoin des autres, on a toujours besoin d'aide parce que c'est pas facile. Là, que vous connaissez. Déjà, moi, dans mon domaine, j'ai besoin de machines, j'ai besoin d'emballage. Mon premier partenaire, c'est mon mari. C'est lui le premier partenaire qui souvent me booste. C'est vrai que j'ai suivi aussi des formations. J'ai été financée par Tony Lumelu en 2019. J'ai eu des petits financements avec des petits projets. J'ai aussi des financements matériels avec le projet FIP de PADEM PME. Et je suis dans beaucoup de programmes qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai des petits soutiens par-ci, par-là, matériels et financiers, bien sûr.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui?
Premièrement, déjà avoir une entreprise, c'est pas facile dans notre pays. Le taxe vous tombe de gauche à droite. Quand vous êtes déjà ici comme là, chaque jour, l'État ne nous aide pas. L'État congolais n'aime pas les jeunes entrepreneurs parce que déjà, le taxe sont des fois exorbitants et il y a beaucoup de services qui viennent nous déranger. C'est vraiment les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Des fois, on a envie de fermer. Et aussi, on a besoin de financement. Déjà, nous là, on est dans la production. Des fois, on a des commandes qu'on ne sait pas satisfaire. On n'a pas assez de machines qui peuvent nous aider à produire de grandes quantités par heure. Alors, on n'a pas assez de moyens pour acheter ça. Donc, on a vraiment besoin de financement et d'accompagnement de l'État congolais, si je peux dire comme ça.
C'est un grand plaisir, en tout cas, de vous rencontrer dans ces beaux cadres de votre jeune entreprise.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, Audrey Zika et Grace Amzati. Écho d'économie se referme, mais il est à réécouter au plaisir sur www.radiocapi.net.